Bonsoir à vous, auditeurs de Principe Actif. On est parti pour le laboratoire, 20h-21h30. Une heure et demie de musique. D'habitude, c'est tous azimuts, je me plais à le dire. Ce soir, ça va être pas vraiment être tous azimuts. On va, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui va venir nous parler de musique. Quelqu'un qui est un homme entreprenant, un écrivain, un meneur de revue. Meneur de revue parce que Équilibre Fragile est le nom de sa revue. Je dis ça parce que il en est le créateur, l'animateur principal. Mais il a su aussi s'entourer de tout un tas de plumes variées, diverses, pour parler de 2 à 3 fois par an de musique et de bande dessinée, principalement. Mais je reçois aussi un père qui fait de son mieux, comme il le dit dans les remerciements qui clôturent son livre sur Bruce Springsteen, un livre qu'il publie cette année au Camion Blanc, un livre dont il est venu nous parler aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Thierry Jourdain.
Bonsoir.
Alors, attends, excuse-moi. On va monter ton micro, ça va être beaucoup mieux.
Eh bien, bonsoir Emmanuel et merci beaucoup pour tous ces propos. Je suis déjà très ému.
Donc, on va pas parler de. Enfin, on va parler de plein d'artistes différents, peut-être, mais surtout de Bruce Springsteen ce soir autour de ton livre.
Du boss, tout à fait.
Voilà, le boss. Écoute, je t'ai dit en arrivant qu'on allait commencer par un premier morceau qui lancerait un petit peu la soirée. Et tu m'as tout de suite envoyé vers un premier titre qu'on va écouter. On en parle juste après, si tu veux.
Avec plaisir.
C'est parti.
You ain't nothing but a hound dog, girl, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.
Parler de ce premier morceau, on va se tutoyer, je préviens les auditeurs, on se connaît un petit peu par ailleurs.
Vous voulez qu'on se dise tu?
Voilà, et puis voilà, j'aimerais en fait qu'on prenne le temps de parler un petit peu de ce que j'ai vécu aussi dans la lecture de ton livre. Ça veut dire, moi je l'ai lu, donc ce livre sur Bruce Springsteen, en écoutant et en découvrant un peu les morceaux. Donc je pense que ce soir, ça va être un peu ça. On va discuter de ce que tu as à nous dire de Bruce Springsteen. Et moi, je vais aussi pouvoir passer des morceaux que j'ai découverts en lisant ton livre.
Avec plaisir. Donc on parle un peu de ce premier morceau, donc de...
Je t'en prie.
D'Elvis. Alors, auditeur qui nous écoute, tu te demandes probablement pourquoi Elvis Presley avant une émission spéciale Bruce Springsteen. Eh bien, tout a commencé par Bruce Springsteen, pour Bruce Springsteen, par Elvis Presley. Voilà, il avait 9 ans. Mm-hmm. Et devant sa télé, il a découvert Elvis. Et voilà, il a découvert qu'on pouvait en fait faire passer énormément d'émotions et beaucoup de choses à travers un déhanché à la Elvis. Et donc, c'était cette fameuse chanson « Hound Dog ». Springsteen a commencé à vouloir faire de la musique, de la guitare avec le King.
Il est né en quelle année, Bruce Springsteen? Enfin, il a quel âge à l'époque où...
Tu es bien curieux. Tu es bien curieux.
Ah, enfin, je veux dire, il a quel âge quand Elvis se...
Alors, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, mais il a autour de 9 ans.
Il a autour de 9 ans en 53.
Ah, c'est ça. Non, bah, et là, il doit avoir un peu plus. 67 ans aujourd'hui, donc je vous laisse faire le calcul.
D'accord, ok, d'accord. Bon, si tu... effectivement, le choc que ça a pu être à 9 ans.
Voilà, il était tout petit.
Il l'a découvert par la télé.
Je pense ne pas dire une bêtise, hein, c'est en 1956, je pense qu'il... Je me tourne vers la seule personne du public ce soir qui se cache sous la table.
On a un public ce soir, oui. En fait, je te pose la question parce que c'est pour savoir...
56 si...
Oui.
Auditeur. 56, oui, tout à fait, à la télé, bien sûr.
C'est pour savoir comment il... Dans quel... On peut peut-être dire un mot de ce milieu.
Un milieu pauvre, en fait. Il a grandi dans une famille très pauvre, mi-irlandais, mi-italienne. Mi-irlandaise, mi-italienne. Ouais. Et du coup, donc, il a vécu très longtemps chez sa grand-mère, donc qui a un peu tenu un peu la barque, le temps que le père trouve de quoi... vivre et travailler, la maman qui était secrétaire, voilà, avec deux sœurs, donc tout ce qu'il y a de plus normal, en fait, voilà, on
plus normal, mais en même temps, dans ton livre, donc on va le citer, ce livre, hein, donc il s'appelle Bruce Springsteen, From the Darkness to the River, 77-80, il est publié chez Camion Blanc, et préface de Laurent Chalumeau, dont on aura peut-être l'occasion de dire un mot. Donc oui, tu précises dans ce livre que son père, tu dis famille normale, son père est quand même un petit peu, comment dire, un petit peu à la dérive, quoi. Il a du mal à se fixer sur un travail.
C'est une vraie famille de prolétaires, en fait, d'ouvriers, voilà, dans une petite ville industrielle du New Jersey. Donc on a plutôt affaire effectivement à une famille vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Ouais.
Voilà, en dessous effectivement de la famille lambda américaine de cette époque. Ouais.
Et c'est pas une famille qui est portée spécialement sur la musique?
Le père, pas du tout. C'est même plutôt quelque chose qui l'exècre. En fait, pour lui, c'est la radio, la télé, c'est quelque chose qui permet d'abrutir les masses pour le gouvernement. Donc là, c'est dire. Et donc c'est vraiment par sa mère où Springsteen découvre la musique. En fait, elle lui fait écouter de la radio, notamment dans la voiture. En fait, c'est vraiment à l'occasion de ses balades avec sa mère. Lui découvre énormément de choses, dont par exemple les Beatles, des choses comme ça.
Tu racontes que son père s'énerve quand il joue de la guitare dans sa chambre pour ses premiers morceaux. Bien. Eh bien, écoute, après cette entrée en matière, on va peut-être écouter un vrai titre du boss.
Mais s'il te plaît.
Alors, c'est moi qui choisis. On y va, c'est parti.
You walk down the street, pushing people out of your way.
The Ties That Bind, un titre de 1980 sur l'album The River. Alors donc, on a absolument choisi de ne pas être chronologique ce soir, mon cher Manu. Hein, tu m'as dit, tu voulais me déstabiliser, tu y es arrivé. Parce que moi, j'avais prévu d'autres choses, mais c'est formidable. Alors donc, avec cette chanson, en fait, Springsteen démontre un peu tout l'amour qu'il a pour les années 60, parce que dedans, il y a tous ces sons un peu accrocheurs des milieux des 60s, avec un son un peu garage aussi, donc pas forcément très propre. Donc, il y a un peu un condensé de tout ce qu'il fait à cette époque-là.
Ouais.
Et surtout, la thématique de Ties That Bind, donc ces liens qui nous lient, c'est à la fois le chemin un peu, puisque tu parlais très gentiment de mon livre, c'est un peu le chemin, le fil rouge, en fait, le fil conducteur de ce que j'ai voulu décrire de Springsteen à cette époque-là. C'est vraiment lui, en fait, recherchant ce qui nous lie, en fait, dans la société. Donc, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit l'amour. Et il faut se raccrocher à quelque chose. Et donc, c'est ce qu'il essaie de faire passer dans cette première chanson de The River.
Ouais. Donc, tu as dit qu'on n'était pas chronologique.
Pas du tout.
Effectivement, ton livre, pour préciser pour les auditeurs, se concentre donc sur une période courte, 77-80, parce qu'il choisit de nous parler essentiellement de deux disques qu'on va rappeler. Donc, le premier, Darkness at the Edge of Town, c'est ça ?
Oui,
c'est ça. On the Edge,
on
of,
the edge of Town.
On the Edge of Town, pardon. Et le deuxième, The River. Donc, peut-être, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, il choisit pas les tout débuts, la naissance, ni non plus la consécration. C'est un peu une période un peu charnière, non ? C'est le moment où se fixent des choses.
Bah alors c'est c'est la période la plus prolifique en fait de sa carrière artistique. En fait, il a écrit une centaine de chansons en 4 ans et il en a gardé que 30.
Ouais.
Donc ce qui était intéressant aussi, c'était de parler du renoncement. Comment on peut mettre de côté comme ça
autant
les trois quarts de sa production qui ne sont ressortis que des années bien plus tard sur d'autres albums, ou des fois sur The River quelques titres de Évincés de Darkness en fait réapparaissent. Pourquoi avoir fait ces choix, et également c'est une période, comme tu l'as dit, en fait il a déjà accumulé pas mal d'années dans les clubs à jouer, donc c'est plus tellement un débutant, mais c'est pas encore le Bruce Springsteen des stades, c'est pas encore celui qui va faire Born in the USA. C'est tout est en devenir en fait. Et ça va décrire, je pense, l'ensemble de son œuvre à venir, cette période là
Tu dis qu'il choisit, que c'est le renoncement, etc. C'est vrai que les chansons, tu dis, on va les voir revenir, elles ressurgissent aussi chez d'autres artistes.
Tout à fait, oui. Bah, il y a Because the Night qu'il a offert à Patti Smith, Hungry Heart qu'on va écouter dans peut-être quelques instants. Au début, c'était destiné aux Ramones.
Ouais.
Voilà, en fait, Fire, il avait écrit pour Elvis Presley, justement. Voilà, il n'a eu de cesse que de vouloir offrir et donner ses chansons, en tout cas en ce qui concerne les hits. Lui voulait vraiment se débarrasser des hits, et c'était vraiment à l'insistance de son groupe et des producteurs.
Alors ça, on va y revenir.
Il a fini par regarder.
Cette façon étrange de concevoir un album autour d'une thématique qui fait que parfois c'est pas le hit qui va l'emporter sur le choix. Mais j'ai ces mots, donc la belle préface de Laurent Chalumeau, je l'ai sous les yeux. Il parle de cette période en fait en disant que c'est une période où se sont mises en place les arches et les séquences d'une chanson de geste ou d'une grande messe, où depuis nous ne cessons de retourner, nous émerveiller, nous ressourcer et communier. C'est la fin de sa préface. Les derniers mots, je trouve que il a le don de bien tourner ses mots, de bien choisir ses mots, Laurent Chalumeau. D'ailleurs, qui est une plume de quelle revue à la base? Rock and Folk,
c'est Rock and Folk, ouais. C'était, c'était la première personne, le premier journaliste français à interviewer Bruce Springsteen.
Ouais.
À l'époque de The River. Donc il le suit depuis très longtemps. Donc non seulement il écrit bien, mais en plus il sait ce qu'il raconte. Voilà. Ouais. Quand il parle de communauté, c'est vraiment ça en fait, la communauté. C'est à cette époque-là où il a commencé à faire des concerts marathon de 3h-3h30, Springsteen, pas Laurent Chalumeau.
Oui, alors on va y revenir à ça. Juste pour prolonger ce qu'on vient de dire sur cette période charnière, en fait. Moi, je suis allé retourner dans Nick Kent pour voir un peu ce qu'il en disait de Springsteen. Surtout parce que moi, cette période-là, je te l'ai dit d'entrée de jeu, je la connaissais pas très très bien. Et dans son Apathy for the Devil, il chronique le Darkness on the Edge of Town, donc le premier de ces deux albums qui t'ont concerné dans ce livre. Et il dit, pour la plupart des Européens, Darkness on the Edge of Town marque le moment où Springsteen dépasse enfin ses influences pour devenir, selon ses propres règles, une implacable machine rock qui ne s'arrêtera plus. Il dit, ces hymnes éloquents pour prolo américains luttant pour garder la foi sonnent encore mieux sur les divers bootlegs live qui se multiplient dans la foulée de l'album studio. Tu confirmes ?
Ouais, après, je serais plus nuancé sur le côté rock parce que justement, il se déleste un peu de ce son grandiloquent du rock'n'roll avec, qu'on avait pu découvrir dans Born to Run. Et justement, là, c'est plutôt une période où il découvre la folk, Woody Guthrie, Hank Williams. Et justement, là, ce qui va suivre The River, Darkness, c'est Nebraska qui est plutôt réputé pour être quelque chose de très sombre, de très folk, très épuré avant l'avènement effectivement du gros son rock
c'est
de Born to Run.
On est quand même dans cette charnière-là. Eh ben écoute, on va essayer de creuser un peu ce qui l'a intéressé à ce moment-là. Moi, ça m'a passionné de découvrir ce moment, comme tu dis, de créativité intense. On écoute un nouveau titre, Angry Heart, ouais, dont on a parlé.
Angry Heart.
C'est parti.
Like a river that don't know where it's flowing.
Italian money and you play your part. Everybody's got a hungry, hungry heart.
Une fin à l'harmonium pour ce morceau, repris. Alors d'abord, l'original.
Alors l'original, donc Hungry Heart.
Morceau de fête.
Morceau musicalement un peu festif, se voulant joyeux, et justement en décalage avec un texte qui au contraire est plutôt sombre.
L'histoire Qu'est-ce de, qu'il raconte ce...
de cet homme un peu perdu, qui en gros quitte son couple et son confort pour essayer d'aller finalement rencontrer mieux, pense-t-il, ailleurs, et pour finalement mieux revenir et chez lui. Donc c'est plutôt un constat d'échec, du toujours mieux ailleurs, donc avec une musique enjouée. Et le deuxième morceau qu'on a pu entendre, ouais. Donc le même. Et oui, par Miner's Eye, un artiste rouano-havrais ou avro-rouanais, je ne sais pas dans quel sens, s'il nous écoute...
Qui se produit de temps en temps donc à Rouen.
Oh, qui se produit très souvent.
qui se produit partout. Et qui répand cette façon de jouer de l'harmonium.
Ouais.
Harmonium.
Guitare-harmonium, guitare acoustique, guitare électrique, harmonium, sample. Voilà, qui a sorti deux très beaux albums.
Et donc ça c'est extrait d'un de ses albums, c'est ça?
J'avais sorti une petite compilation Springsteen à l'époque d'un blog qui s'appelait My Music Factory. Et du coup quelques personnes talentueuses et avec, pour lesquelles j'ai beaucoup d'amitié ont fait des reprises de Springsteen.
Très bien. Oui, ça, c'est un peu aussi le projet des disques que tu as sortis avec Qu'il est fragile. Enfin, autour de Qu'il fallait danser, donc sur ce label-là, il y a eu déjà Dominica.
Il y a Dominica et on va sortir bientôt Catherine, une compile tribute to Catherine.
Une nouvelle compile de groupe du coin, on va dire, ou pas forcément. Non, il y a des Parisiens.
Il a failli y avoir un groupe d'Angerville, mais qui finalement a trouvé qu'ils avaient... d'autres choses à faire. Non, je souris parce que ce groupe d'Angerville, on l'adore, c'est le goût acide des conservateurs. Et voilà.
Évreux, oui, on le connaît bien, ce groupe. Voilà, Principe Actif, on le connaît bien.
Ils n'ont décliné cette proposition que pour mieux revenir sur une autre plus tard l'année prochaine, avec Chalkboard.
D'accord, ok. J'en profite peut-être parce que, on évoque les paroles de cette chanson Hungry Heart, pour dire que dans ton livre, tu fais le choix de, à la fois de nous. Retranscrire les paroles. D'ailleurs, je sais pas qui est chargé de la traduction, c'est toi?
Alors, c'est moi. Alors, pour le coup, avec la supervision. Quelle horreur. Je m'excuse auprès de mes profs de français. La supervision de Yann Lafosse, donc, Miner's Eye. Encore lui.
Oui.
Voilà, qui a corroboré cette traduction. Donc, on a essayé d'être le plus fidèle possible à l'esprit de la chanson. C'est pas toujours évident.
Donc dans ton livre tu les traduis, tu les reproduis, on peut les lire en français, des extraits, et tu choisis donc très souvent de te focaliser sur des titres en particulier dans chacun de ces deux albums, et tu décortiques un petit peu ces paroles en introduisant des commentaires personnels à ces paroles. Comment t'es venu l'idée du choix des chansons? Parce qu'évidemment, on vient de dire qu'il y en avait eu des tonnes. En tout cas, il y en a beaucoup sur le deuxième, The River, qui est un double album. Tu parles pas de toutes les chansons.
Enfin, non.
Tu parles de beaucoup, mais t'as eu quoi comme guide pour choisir?
Par thématique, en fait, j'ai toujours l'habitude d'avoir plusieurs petits carnets où je note plein de choses. Du coup, en fait, au moment de compiler, de ramasser, de trouver un peu une cohérence à tout ça, finalement, des chansons se sont rapprochées les unes des autres, un peu par thématique. Donc, c'est un mélange de chronologie en fait de l'album, mais en même temps de thématique. Donc il y en avait certaines en fait qui étaient vraiment plus anecdotiques que d'autres. Donc,
qui représentaient bien, tu veux dire, les thématiques de Springsteen à cette époque-là.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, certaines étaient un peu soit redondantes ou anecdotiques par rapport à d'autres qui vraiment étaient beaucoup plus représentatives. Donc, effectivement, c'est pas une description de l'album chanson par chanson, c'est pas une analyse par chanson, mais plus de thématiques et de contexte, en fait, finalement, dans lequel Springsteen a écrit ces deux albums.
Très bien. Écoute, cessons de parler, écoutons, parce que c'est quand même ça le but de cette émission aussi, faire entendre ces albums de Springsteen. Tu as un titre en particulier qui tirait après ça?
Oh bah écoute,
tu as apporté des choses, alors je sais que tu as apporté des surprises.
Pour me faire pardonner, en fait, mon néologisme infâme de supervision, je reste dessus et vraiment, c'est pathétique. Je prie de m'excuser auprès de tout l'auditorat et de tout le monde, même de celui qui tousse là, juste derrière
moi. Minor's Eye, c'était déjà une surprise Minor's pour
Eye,
moi.
Oui. Voilà. Merci.
Bah, non, alors, il y aura d'autres.
Alors, peut-être Badland, par une artiste que j'affectionne énormément, qui s'appelle Julian Baker, une jeune artiste américaine. Donc qui a repris Badland l'année dernière et d'ailleurs je l'ai même découvert par cette reprise là que j'ai trouvé exceptionnelle.
Alors Badland, on précise, c'est le premier album de ces deux dont tu parles, donc
ouais,
Darkness on the Edge of Night,
ouais. Of Town
pardon.
Mais
c'est le premier morceau de l'album.
C'est le premier morceau de l'album. Ouais.
Il est enfin tu lui consacres vraiment de nombreuses pages. Hein. Il y a plein de choses. Tu nous en parleras après.
Ça marche.
On écoute la reprise par
Julian Baker.
Oh,
Elle te bouleverse cette chanson.
Bah oui, voilà, c'est ce que je disais hors antenne. Alors, la chanson, mais c'est vraiment l'interprétation, en fait. C'est,
Qui est cette Julianne Baker? Je la connais pas.
Jeune artiste américaine, donc là, qui vient juste de sortir son deuxième album.
Ouais.
Voilà, que j'ai découvert par le biais de cette reprise et qui a vraiment un songwriting époustouflant, qui a fleur de peau, qui est toute jeune, qui a 22, 23 ans.
Mm-hmm.
Et vraiment, vraiment formidable. Voilà.
Et donc, cette chanson, Badlands, comment tu la qualifierais? Qu'est-ce qu'elle raconte? Puisque tu y as consacré, je l'ai dit tout à l'heure, du temps en ouverture de ton livre, d'ailleurs.
Ouais, ouais, ouais. Et ben, pour le coup, là, cette chanson-là, en fait, elle synthétise un petit peu tout. Alors, l'histoire, donc, elle raconte l'histoire d'un homme perdu qui en veut au monde entier, qui n'est pas du tout content de sa condition, qui travaille dans les champs, mais qui finalement, en fait, travaille quand même pour trouver un monde meilleur.
C'est ce que tu dis là. J'ai le livre sous les yeux. Badlands raconte ni plus ni moins que l'histoire d'un homme perdu.
Alors,
tu viens de le dire.
Absolument.
Qui en veut au monde entier, mais qui rêve quand même d'un monde meilleur.
Mais oui.
C'est ce que tu viens de dire.
J'ai repris ce que je viens de dire. Je me suis paraphrasé et toi-même tu me paraphrases. Je répète.
Très bien. Bon. Eh bien.
Donc 77, c'est à l'époque à laquelle Springsteen écrit Badlands. Et c'est une chanson assez particulière. En fait, pour certaines chansons, il arrivait en studio avec juste un riff, juste des fois avec un mot, et Badlands fait partie de ces chansons-là. Mm-hmm. Donc, si tu me cites, tu vas encore dire la même chose, puisque je l'ai écrit, je leur dis.
je n'ouvrirai plus ce livre.
Pour Badlands, en fait, pendant des semaines et des mois, il n'avait que Badlands uniquement. Donc, sur les bandes démos qui ont fuité, qu'on peut découvrir et que...
Ouais, alors tu racontes aussi cette aventure des démos, des fuites.
Donc oui, alors il a écrit énormément de versions, énormément de couplets différents, etc.
Ouais.
Donc en fait, il s'est retrouvé avec une matière incalculable. Il avait dû faire des choix non pas que de morceaux composés, mais également de versions de chansons. Donc sur Badlands, en fait, il a mis, je pense, 10-12 versions avant d'obtenir vraiment celle qu'il voulait vraiment pour l'album.
Il les testait en concert? Ou
alors oui, la plupart des chansons en fait de Darkness en fait ont été jouées avant. Voilà, cher auditeur, si tu achètes mon livre, tu trouveras pourquoi. Mais je peux t'en donner quelques pistes. Pendant un an et demi, en fait, il était sous contrat avec un ancien producteur qui le tenait un petit peu par la gorge.
Ah oui, il y a eu cette histoire aussi.
Voilà,
oui.
Mike Appel, qui en gros, Springsteen voulait après aller avec un autre producteur, en tout cas coproduire avec John Landau, qui l'a un peu découvert en fait dans la presse, celui qui a dit le futur du rock'n'roll, je l'ai vu, et c'est Springsteen, donc c'est John Landau, qui avait également produit en fait le premier album du MC5. Donc plutôt quelqu'un d'aguerri, voilà, avec un parti pris musical fort et important. Donc Mike Appel ne voulait pas partager Springsteen, et donc en fait les contrats qu'il avait fait signer au tout début de sa carrière étaient complètement abusifs et le privaient en fait de toute liberté, de tout choix. Et au moment de vouloir reprendre en fait ses textes, ses chansons, son art, il s'est rendu compte qu'il était complètement piégé. Donc pendant un an et demi, ça a été une succession de procès pour justement se délester de ce fameux Mike Appel. Et donc, il ne pouvait pas enregistrer, en fait. Voilà.
Ouais, ce que tu racontes, c'est que ces albums-là, c'est un peu là aussi le moment où il revient en studio.
Ouais. Donc
il se libère.
Pendant un an et demi, il a joué énormément de choses en concert, ça, il avait le droit, mais pas d'enregistrer, d'entrer en studio. Donc, du coup, effectivement, quand il rentre en studio, il y a 100 chansons qui arrivent comme ça sur 2-3 ans.
Très bien. Écoute, Badlands, donc je t'ai un peu coupé au moment où tu parlais justement des paroles de cette chanson.
Non.
Un homme, on peut quand même dire peut-être juste que ça fait partie d'une thématique finalement qui revient souvent chez Springsteen, cette idée de... Alors, est-ce que tu l'as très bien dit en début d'émission, ce rapport à la vie, ce rapport à... est-ce que cette chanson-là, finalement, pourquoi il l'a mise en premier? Peut-être parce qu'elle éclaire justement cet aspect-là de...
Bah, je crois que oui, elle ouvre la thématique en fait sur le milieu du travail, sur la condition en fait de l'homme dans la société à cette époque-là.
En crise économique.
La crise économique aux États-Unis, sachant que non seulement en fait ça a été un casse-tête de savoir quelle chanson il allait intégrer à l'album, c'était aussi un casse-tête pour lui de savoir dans quel ordre, parce qu'au-delà même de savoir ce qu'il allait garder. Il y a eu des propositions incalculables en fait d'ordre de chansons, de playlists, de ratures, voilà. Mais Badlands, en tout cas, lui savait exactement par laquelle il voulait commencer l'album, c'était Badlands, et il savait par laquelle il voulait finir, c'était Darkness, On the Edge of Town. Après, voilà.
Ça a
beaucoup bougé.
Donc il met de côté les hits, il conçoit un album vraiment avec une ambiance particulière où on va pas danser forcément tellement, enfin on va vraiment se confronter à un propos, et c'est ça que ton livre en fait je trouve rend bien, c'est que ça t'intéresse à ce propos là, à ces thèmes de la crise économique, de la voiture. À un moment tu parles aussi pas mal de ce thème qui revient.
Oui, c'est une thématique importante aussi dans son œuvre, la voiture. Qui au début est plutôt symbole de liberté et d'aventure, et finalement plus on progresse dans sa discographie avec The River et après Nebraska, et la voiture en fait devient finalement un objet plutôt qui conduit vers la mort.
Ouais, ou le désespoir.
Et au désespoir, l'inconnu.
Ouais. Là, j'ai noté comme ça des choses sur l'éducation, la religion, l'enfance. C'est des thèmes voilà qui met en avant à ce moment-là, cette période-là. Et...
Oui, ça, c'était un enfant. Alors, on parlait tout à l'heure du milieu défavorisé. C'était un enfant qui était à l'église catholique, qui a été souvent raillé par les institutions. Il était un peu le vilain petit canard auprès de ses camarades de classe, mais également auprès en fait des prêtres.
Ouais.
Donc, il a très très mal vécu en fait.
On raconte des épisodes assez durs. Hein.
Ouais. Il a très très mal vécu toute cette période-là et il a vraiment subi. Et justement, il a essayé de faire la part des choses après dans ce qu'il allait pouvoir écrire, non pas en étant à charge contre l'Église, mais en tout cas, vouloir vraiment s'en dissocier, assurément.
Très bien. Est-ce qu'on pourrait écouter maintenant peut-être la dernière, Darkness, pour faire le pont avec la première qu'on vient d'écouter de l'album donc Darkness, On the Edge of Town, de Bruce Springsteen. Vous êtes sur le laboratoire avec Thierry Jourdain, qui nous parle de son livre From the Darkness to the River, et on va écouter donc le dernier titre du premier album auquel il s'est intéressé.
Well, they're still racing down at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now I hear got a house up in Fairview in a style she's trying to maintain. Well, if she wants to see me, you can tell her that I'm easy to find. Tell her there's a spot out beneath Hampton's Bridge, and tell her there's a darkness on the of town. There's the darkness on the edge of town. Well, everybody's got a secret sign, something that they just can't face. Some folks spend their whole lives trying to keep it. They carry it with them every step that they take.
Darkness on the edge of time. It's got a hole in it. I can't buy no beer. Well, I went up on the mountain. I looked down in the sea. I seen the crabs and the fishes doing the bebop because my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Of me working so hard when I got a woman in the boss man's yard, cause my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. My bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer.
Un enchaînement avec un autre artiste que Bruce Springsteen ce soir. On en a quelques-uns, vous avez déjà pu vous le constater. Après Minor Thighs et Julian Baker, c'était Woody Guthrie.
Absolument.
Woody Guthrie, parce que on avait envie de parler un petit peu de des sources, un peu de la musique. On a passé Elvis en entrée. Mmh. Woody Guthrie, donc le folk américain dans ce qu'il a de plus politique, engagé. Alors évidemment, pour ce Springsteen, on sait que par la suite il va prendre partie pour plein de causes. Mmh. À cette époque-là, quelle forme ça prend chez lui dans ses chansons, et est-ce que l'influence, alors je sais que tu m'as dit tout à l'heure qu'il aime, il s'intéresse au folk à ce moment-là. Il quitte la grandiloquence du premier album, tu as dit. Il se tourne vers d'autres musiques.
Ouais, alors avant en fait d'aller vers la folk, il a été très influencé par le punk en fait en 1976-77, notamment avec les Sex Pistols et voilà tous les autres groupes qui ont émané à cette période-là. Et c'est à l'époque de The River en fait où la folk vraiment lui apparaît comme une nouvelle façon d'aborder l'écriture, le songwriting, et il a été vraiment impressionné par justement de Rudy Guthrie, Hank ouais. Williams. Mmh. Des artistes comme ça, Roy Acuff aussi, donc il a réussi à découvrir en fait qu'on pouvait finalement parler de l'histoire et de des racines à travers justement cette musique, cette sonorité plus folk, moins énervée et moins exubérante, moins outrancière finalement pour dire la même chose et parler de l'être humain.
C'est clair que c'est le grand écart entre les Ramones et Woody Guthrie.
Ouais, mais c'est un beau résumé finalement de des influences et de ce qu'est Springsteen également. En fait. Voilà, ce côté grandiloquent et très énergique et survitaminé et en même temps très introspectif et voire même par moments dépressif en fait.
Ouais. Dans la préface de Laurent Chalumeau, il a ces mots. Il ouvre ton livre en fait en disant bah, qu'est-ce qu'on peut dire après l'autobiographie du boss.
Mais oui, je me le suis dit aussi.
Ouais. Ouais. Voilà. Et il a une réponse. Il dit que en fait, Bruce Springsteen avait à cette façon, il a façon de s'ausculter en permanence, d'être, il dit, self omnubilé, et que donc quelque part il dévoile des choses, mais il y a encore d'autres choses qui se révèle par cette façon qu'il a de s'observer tout le temps. Peut-être aussi ça qui fait qu'on peut encore dire des choses après lui, quoi.
Oui, et surtout je voulais vraiment éviter de tomber dans la biographie classique, ou d'autant plus après avoir lu son admirable autobiographie. En fait, j'ai achevé ce livre au moment où sortait l'autobiographie, du coup ça m'a aussi fait poser pas mal de questions en fait sur ce dont j'allais traiter, sur les thématiques. Donc du coup voilà, on se concentre sur 4 ans, sur vraiment une thématique, et à partir de ces chansons-là finalement on peut parler aussi d'autre chose que de Springsteen, puisque j'aborde la société américaine à cette époque-là, les émeutes raciales, voilà, vraiment savoir dans quel contexte social, économique et politique en fait Springsteen a écrit finalement 2 des albums les plus importants avant son succès commercial planétaire qu'il fera jouer dans les stades.
Alors, on peut creuser un petit peu le sillon des influences, ou alors carrément on bascule dans les gens qui ont été un peu influencés par Springsteen, ou qui ont repris des choses à lui. Est-ce que tu as apporté les Beach Boys et Joseph Arthur d'un autre côté? Est-ce qu'on on repasse dans le passé?
Ah bah on peut aller dans le passé et dans le futur en fait. Les Beach Boys, les Beatles et les Beach Boys ont considérablement influencé Springsteen en fait dans ses jeunes jours.
Ouais.
Mais également en fait dans l'écriture de certains morceaux en fait, dans des morceaux beaucoup plus pop et beaucoup plus évident, beaucoup plus accessible en fait. Il était très admiratif justement de ces quelques accords comme ça qui saisissaient tout de suite l'auditeur.
Du format de la chanson.
Voilà, d'un format très 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 pop en fait, mais dans le bon sens du terme, populaire et qui passait à la radio, puisque c'était les morceaux que lui écoutait avec sa mère, justement comme on en parlait tout à l'heure. Donc pour lui c'était quand même des morceaux très très importants, et le temps d'une chanson pop à la radio, et ben de nous emmener dans un univers ailleurs.
Alors écoutons les Beach Boys, et puis Joseph Arthur peut-être enchaîner avec cette reprise qu'il fait de Born in the USA.
Absolument.
C'est parti.
I don't know why. is when I hit the ground. End up like a dog, this can be too much. Till you spend half your life just covering up. Born in the USA, I was born in the USA.
Chose à dire sur cette chanson. Pour moi, en tout cas, sentimentalement, c'est le premier choc pour Springsteen que j'ai eu. En fait, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune et cette chanson-là me transportait littéralement dans la version. Et alors, j'ai été étonné de ce que tu me racontais. C'était à l'origine une chanson destinée à figurer sur Nebraska.
Sur Nebraska, ouais. Ça a été composé en fait sur son 4 pistes à l'époque de Nebraska et ça devait être une version juste guitare-voix folk.
Un peu comme ce qu'on vient d'entendre en fait. Enfin,
oui, avec encore moins d'arrangement, mais c'était même encore plus sombre et épuré en fait. C'était guitare voix. À la base, elle s'appelait Vietnam. Elle devait être sur Nebraska à l'époque où l'autre album Born in USA devait s'appeler Murder Incorporated. Il ne devait absolument pas y avoir ce gros son des années 80 synthé caisse claire.
Ça veut dire qu'il s'est fait déborder par un producteur ou
il a mis de côté, il a réenregistré. C'est le problème de ne pas réussir à dire stop à un moment donné, de figer une version, c'est de faire trop de choses. Et, voilà.
Et donc c'était Joseph Arthur qui l'a chanté dans une version rare. Tu me disais que c'était une version...
Histoire de venir ici, c'est déjà très sympa de m'inviter. Alors du coup, je suis venu avec des petites choses un peu rares. C'était une version, un live radio 2007 avec son groupe Les Lonely Astronauts. Donc ça n'a pas du tout été enregistré ni trouvable, si ce n'est sur Internet ou maintenant dans ton émission.
Et donc avant Beach Boys, Don't Worry Baby, une chanson Baby. Qui n'est pas... Vas-y, dis-nous.
Don't Worry Baby, 1964 des Beach Boys. Donc, initialement, je l'avais choisi et je la cite un tout petit peu dans le livre, en fait, parce que des thématiques sont vraiment très proches entre donc cette chanson-là et Racing in the Street de Springsteen, où en fait, le narrateur parle de voiture et de relations sentimentales. Et vraiment, quand on voit les deux thèmes, on se rend compte à quel point finalement les Beach Boys ont influencé Springsteen et notamment cette chanson. Comment des pop songs par excellence, en fait, finalement, peuvent traiter d'autre chose que juste un rythme dansant. Et quand on fait attention aux paroles, on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup plus derrière.
Mmh. Eh bien, écoute, c'est passionnant. On va revenir au boss parce que l'heure tourne et on est quand même là pour écouter sa musique. Qu'est-ce que tu me proposes? Wreck on the Highway, l'accident sur l'autoroute.
Ah, elle est magnifique celle-ci. Ah. Elle est très belle. Justement, elle présage Nebraska. On parle de Nebraska. C'est la dernière chanson de The River.
C'est ça. Voilà. Ouais. Tu racontes comment elle va clore l'album The River. Et donc 80, c'est ça. Hein,
80, ouais, ouais. Tout à fait.
Et annoncer donc c'est Nebraska qui
directement. La suite directe c'est Nebraska.
Écoutons ça.
Last night.
The River est en cela un album à l'image de ce qu'est la vie, une succession d'étapes et d'épreuves qui nous font souvent passer du rire aux larmes plus vite qu'on ne l'imagine. Il n'est pas facile de faire cohabiter ces deux aspects et il faut à celui qui s'y aventure une grande maturité et une grande force pour que des chansons comme Cheryl Darling, Crush on You ou Cadillac Ranch coexiste avec coexiste sur un même disque avec Wrecking on the Highway.
C'est très beau, mais de qui est-ce?
C'est tiré d'un livre sur Bruce Springsteen. Wrecking on the Highway qu'on vient d'écouter. Tu nous racontais hors antenne que voilà, l'histoire de cette chanson, c'est quelqu'un qui rentre chez lui, qui découvre un accident sur l'autoroute, qui prévient les secours, enfin qui voit la personne.
Même pas.
Non,
même pas. En fait, un peu comme moi tout à l'heure là, quand je vais repartir d'ici, je vais prendre ma voiture et probablement que j'aurai plein de belles choses en tête en repensant à cette émission là, mais je pourrais voir peut-être un accident sur le bas-côté de la route avec je sais pas, quelqu'un qui est peut-être mort, peut-être pas, donc c'est ce qui se passe pour ce personnage.
Ouais.
Et où en fait, alors à l'inverse de moi qui vais rentrer tout seul dans mon lit froid, lui rentre et se couche auprès de son amour et finalement profite de la vie, d'autant plus qu'il s'est rendu compte qu'elle elle tenait à pas grand chose en fait. Ouais. Un accident sur le bord de l'autoroute, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, ce que tu relèves aussi, c'est que finalement, il détourne une thématique d'une chanson ou deux chansons qui existaient déjà, qui étaient empreintes de religiosité, d'un aspect. Alors, tu me disais, il y a quelque part l'idée de la faute qui est présente.
Ouais, de la morale, en fait. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il a écouté beaucoup de folk et de country. Et il y a un artiste qui s'appelle Roy Acuff, qui a écrit une chanson qui s'appelle The Wreck on the Highway, donc quasiment le même titre, dans les années 40, où justement c'était la même thématique, un accident sur le bas-côté de la route, une personne rentre chez elle, sauf qu'il y a une morale chrétienne derrière sur la chanson, en fait, dans les refrains où on accuse un peu, voilà, cette personne.
S'il est mort, c'est pas pour rien.
C'est pas pour rien, voilà.
Le jugement divin,
absolument.
Il le nettoie, il
totalement
l'enlève.
Totalement absent, ouais, ouais, ouais.
Il en fait une chanson laïque, enfin.
Complètement, non, mais ouais, tout à fait, absolument.
Où c'est l'homme qui pense à sa vie une fois rentré chez lui, qui la relativise par rapport à ce qu'il vient d'éprouver.
Mmh.
Écoute. Et alors, tu disais que c'était un pont vers l'album. C'est la dernière chanson de The River. C'est un pont vers Nebraska. En quoi? C'est l'ambiance country.
Alors dans la musique, là on voit bien qu'on n'est plus du tout sur des hit pop et entraînants. On est vraiment sur une mélodie plutôt mélancolique et lancinante. Et aussi dans le texte, dans le songwriting, où vraiment là il raconte une histoire finalement. Alors on parlait hors antenne, car il se passe tellement de choses hors antenne. On parlait justement de ces enchaînements d'accords finalement assez simple et ouais. Finalement qu'on retrouve dans tellement de chansons, mais c'est pas la composition musicale en elle-même. Là, c'est vraiment le côté épuré de la musique et complètement le prolongement finalement de son propos. C'est la simplicité en fait, que tout ne tient qu'à un fil. Et Nebraska, c'est ça, c'est enregistré avec un 4 pistes. C'est des démos en fait, les chansons de Nebraska, c'est juste des démos qui ont été retravaillées, masterisées après dans un beau studio, mais c'est Springsteen dans sa chambre d'hôtel avec
à poil.
Peut-être pas, peut-être qu'il avait un caleçon ou un peignoir, mais en tout cas avec très peu d'instruments. Ouais, ouais.
D'accord. J'en profite juste pour dire que ton livre, c'est ça aussi, c'est un passage entre les chansons, les histoires et des remarques sur la musique. Et c'est ça que ce qui m'a plu aussi, c'est que voilà.
Je voulais dire que je l'ai juste écrit habillé. En tout cas, si jamais vous achetez mon livre, n'ayez aucune arrière-pensée. Je l'ai vraiment écrit, mais alors à une table et pantalon, chemise ou des fois t-shirt, mais pas du tout comme ce que cet illustre individu a pu dire. Personne n'écrit tout nu. Je m'en vais. Je ne laisserai pas traiter comme ça.
Écoutons un titre plus récent de Bruce Springsteen en concert, je crois, non? C'est ça, 2016, à Paris?
Ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi.
Allez.
I saw her standing on her front lawn,
just a twirling her baton. Me and her went for her answer in Tennessee. People done from the town of Lincoln, Nebraska. Sawed off 410 on my land. Through to the badlands of Wyoming. I killed everything in my place. I can't see it, but I'm sorry for the things that we've done. At least for a little while, sir, me and her, we had a song. Jury brought in a guilty verdict, and the judge sentenced me to death. Midnight in the prison storeroom with leather straps across my chest. Sheriff, when the man pulls that switch and snaps my pony back, you make sure my pretty baby sitting right there on my They declared me unfit to live. Said into that great void my soul be heard. They wanna know why I did what I did. Sir, I guess it was just a meanness in this world.
Nebraska.
Nebraska, le morceau, le titre.
Ouais, on se dépêche parce qu'on a envie vraiment de vous faire profiter de plein de morceaux et de plein de petites pépites musicales. C'était un live en 2016 à Paris.
Parce qu'on vient d'entendre.
Voilà, celui qui m'a donné envie vraiment d'écrire ce livre, ce concert à Paris, en fait, où il a joué The River dans son intégralité. C'était juste exceptionnel et c'est pour la première fois que j'ai entendu vraiment l'ensemble des chansons parce que, comme pas mal de personnes, il y a des chansons voilà, que je trouvais vraiment en dessous et je pensais qu'elles desservaient l'album. Or, vraiment, l'intégralité de l'album est très très importante, même celles qu'on pense finalement anecdotiques ou secondaires, elles construisent aussi la logique et la cohérence de l'album. Et à ce concert-là, il a joué Nebraska, qu'il n'avait pas joué avec le Street Band depuis 85.
Enchaînons donc avec une reprise, parce qu'il sait aussi faire des reprises lui-même, et pas des moindres, Suicide. Mm. Dream Baby Dream par Bruce Springsteen.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream. We gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on, we gotta keep the light burning. Come on and dream, baby, dream. We gotta keep the fire burning. Come on, gotta keep the fire burning. Come on, we gotta keep the fire burning. Come on and dream, baby, dream. Come open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on and open up your heart. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on, we gotta keep on dreaming. Come on, we gotta keep on dreaming. Come on, we gotta keep on dreaming. Come on, dream on, dream, baby, dream. Come on, darling, and dry your eyes. Come on, baby, and dry your eyes. Come on, baby, and dry your eyes. Come on, dream on, dream, baby, dream. Yeah, I just wanna see you smile.
Down in the valley where Mr. when you're they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down
Voilà, quasiment au terme de cette grande balade dans l'œuvre de Springsteen, ses influences et ses descendants. Un petit mot peut-être, Thierry, sur les derniers, derniers titres qu'on vient d'écouter. Donc cette reprise de Suicide,
ouais,
qui est récente.
Elle fait partie des derniers moments là, de Springsteen. En fait, il a joué déjà depuis quelques années. Il a fini par l'enregistrer sur son dernier album studio en date. High Hopes, donc ça date de 2014. Voilà.
Ouais. Voilà. Il a rien publié depuis 2014.
D'albums studio, non, parce qu'il repousse systématiquement. En fait, il a deux albums là dans les tiroirs. Ah, ouais. Du coup, il a enchaîné avec une tournée sur The River. Ouais. En 2016, et là il est à Broadway où tous les soirs, 5 soirs par semaine, en fait, il fait des concerts tout seul, un peu tiré de son autobiographie, en jouant des morceaux aux gens, et il n'arrête pas en fait de repousser en fait la dernière date. Là, aujourd'hui, on a appris qu'il allait continuer jusqu'à juin. En fait, et, au début, c'était de décembre, là, février, et là juin.
Ok, donc tu vas pouvoir y aller alors.
Ben j'espère bien. Je lance un grand tiriton.
Grand voilà.
Financez-moi.
Souscription.
Je fais un report.
Et donc, cette reprise de Suicide, donc Alan Vega, le morceau doit dater des années 81 ou 2, un truc comme ça. Ouais. Il admire donc Alan Vega, Suicide, cette ambiance particulière du post-punk.
Ouais, absolument. Et du coup, la boucle va être complètement bouclée, puisque c'est ce qui a influencé complètement sa façon d'enregistrer Nebraska. Ouais, vraiment, Suicide, il le cite. Donc ça c'est bonus auditeur, puisque ce n'est même pas dans l'ouvrage, puisque c'est complètement hors propos. Mais en tout cas, Nebraska est issu de sa passion pour Suicide dans la manière d'enregistrer et d'aborder les morceaux avec les samples.
Tu comptes en écrire sur Bruce Springsteen encore ou sur d'autres?
Ah, le petit cœur.
Est-ce que tu te vois écrire sur d'autres musiciens que Bruce Springsteen?
Mais bien sûr, je me vois écrire
très bien. Bon,
plein de choses.
Eh ben, écoute, dans ce cas-là,
Eh bien, je peux même te dire que sur Dominica, sur ROM. Voilà,
très bien.
Et tu le sais en plus. Voyou.
Eh bien, il nous reste à. Donc, on n'a rien dit sur The River.
Ben non.
Il est quasiment l'heure. Bon, on va se quitter sur un dernier titre, mais peut-être en deux mots, The River, ouais.
The River.
Eh bien, merci à toi en tout cas d'être venu, Thierry Jourdain, pour ce livre au camion blanc que je recommande aux auditeurs qui ont envie. J'avais une question, je voulais te demander si c'était spécialement pour les fans, mais pas du tout.
Pas du tout. Non.
C'est pas conçu comme ça. Hein, je crois qu'on l'aura compris.
Surtout pas. Juste 10 secondes pour dire. En fait, je voudrais essayer vraiment de contenter le plus grand des fans, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours. Connu Springsteen, aimé, qui a tout et qui sait tout sur tout et qui va se dire, oh là, je vais rien apprendre là-dedans. Alors que si, toi qui m'écoutes, tu apprendras des choses, puisque moi-même j'ai appris des choses, mais également la personne qui est juste curieux et amateur de musique, et passionné, le néophyte. Au contraire, il y a vraiment, c'est vraiment raconter une histoire et sur quelqu'un voilà, qui est lui-même passionné de musique. Donc ça s'adresse vraiment aux deux catégories.
Très très bien.
Et,
bah,
si, et si vraiment c'est pas le cas, je rembourse le livre.
Merci à toi. On se quitte avec un dernier
beaucoup,
morceau.
Mais oui, s'il te plaît.
The Ghost of Tom
Joad.
En deux mots.
Ah bah là, non, parce qu'il y en a quatre. The Ghost of Tom Joad, ça fait même 5. Une première version a été enregistrée en 1994. Ah là là, tu me fais vraiment puiser dans ma mémoire. Une version complètement folk, épurée sur l'album Ghost of Tom Joad. À la base, Springsteen la voulait plus orchestrée, arrangée, électrique. Ouais. Et il l'a refait sur son dernier album, sur le même album que la chanson dont nous parlions de Suicide, Dream. Ouais. Donc The Ghost of Tom Joad, 2014, avec Tom Morello, de Rise Against the Machine.
Ok. Voilà. Il me reste à te remercier encore une fois. On a un petit peu débordé. Il n'y aura pas de Factory ce soir. C'est pour ça qu'on se permet de lancer le morceau sur leur plage à eux.
Mais c'est pas notre faute.
Voilà. Ce n'est pas du tout notre faute. The Ghost of Tom Joad de Bruce Springsteen. Merci Thierry Jourdain. On se retrouve en ce qui nous concerne mardi prochain pour la suite du laboratoire. Merci. Ciao.
Men walking along the railroad tracks, gone someplace, there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to New World Order. And we're sleeping in the cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight. But nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. A prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag, waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. The blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there.
Whoever, somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand. Whoever, somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me.